France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Deux jours après l'intervention militaire américaine au Venezuela, c'est encore assez largement la sidération qui prévaut aujourd'hui. On reviendra sur la nouvelle organisation du pouvoir à Caracas, mais aussi le mobile de ce coup de force américain. Enfin, avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, on s'intéressera aux menaces qui pèsent à présent sur d'autres régions du monde et dont le président américain a fait l'éclatante démonstration qu'elles ne doivent jamais être prise à la légère. L'actualité en France, c'est notamment la grève à partir d'aujourd'hui des médecins libéraux exerçant en ville, un mouvement national annoncé comme très suivi jusqu'au 15 janvier. Puis avec notre invité, on parlera d'une nouvelle organisation de la justice en France avec l'entrée en fonction à partir d'aujourd'hui d'un parquet national anticriminalité organisé. Après que la stupeur a frappé ce week-end le Venezuela et au-delà le reste du monde, plus que jamais la question se pose ce matin de savoir si la force, laquelle présente l'immense avantage de ne pas s'embarrasser d'un quelconque consentement juridique ou même rationnel, va désormais présider à la gouvernance d'un monde transformé en une sorte de gigantesque Far West, ou dit autrement, cet élan insurrectionniste de Donald Trump, toujours prompt à piétiner l'ordre établi, doit-il nous faire craindre une nouvelle forme de tyrannie de la part du président de la première puissance mondiale pour l'heure. Et même si certains, y compris parfois au plus haut sommet du pouvoir, laissent entendre que la chute du régime autoritaire de Caracas pouvait bien après tout justifier des méthodes elles-mêmes autoritaires, force est de constater que cette opération spectaculaire aura d'abord et surtout fait basculer le Venezuela dans une nouvelle ère d'incertitude. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
La capture ce week-end du président vénézuélien est venue secouer la coupole du pouvoir. Est-ce là pour autant un cadeau fait aux Vénézuéliens meurtris par une décennie de crise économique, d'autoritarisme, d'exil massif? Pour l'heure, c'est la vice-présidente Delcy Rodríguez, laquelle a toujours fait partie du premier cercle de confiance de Maduro, qui a été nommée présidente par intérim.
Oui, Delcy Rodríguez est l'une des figures clés de ce régime. Elle est d'abord la fille d'un guérillero d'extrême gauche mort en prison pour avoir participé à l'enlèvement d'un homme d'affaires américain. Elle commence comme juriste dans l'administration avant de se lancer en politique sous la présidence d'Hugo Chavez. Mais c'est avec l'arrivée de Nicolas Maduro au pouvoir que sa carrière décolle. Elle devient donc l'une de ses plus fidèles alliés, ministre de la communication, ministre des affaires étrangères. Elle se distingue par ses discours incendiaires contre l'impérialisme nord-américain et les sanctions imposées à son pays. Le chef de l'État la qualifie de tigresse et la bombarde vice-présidente après sa réélection contestée en 2018. Elle est alors interdite d'entrer sur le territoire européen. Ses avoirs sur le continent sont gelés. Bruxelles l'accuse de saper la démocratie et l'état de droit au Venezuela. Mais Delcy Rodríguez est aussi une pragmatique. À la tête du ministère de l'économie en charge du pétrole, elle se sert de son influence pour ouvrir des ponts entre le gouvernement et le secteur privé, chose jusque-là inenvisageable. Et si elle a commencé samedi par dénoncer en termes très durs l'opération militaire américaine, elle semble aujourd'hui beaucoup plus conciliante, appelant à des relations équilibrées et respectueuses avec Washington. À l'automne, plusieurs médias américains avaient d'ailleurs révélé qu'avec son frère, président de l'Assemblée nationale, elle avait négocié son maintien au pouvoir en proposant aux États-Unis de prendre la place de Nicolas Maduro d'ici 3 ans. Proposition qui aurait été rejetée par la Maison-Blanche et qui a évidemment été niée publiquement par les intéressés.
Merci Isabelle Labéry. Alors pour justifier officiellement son interventionnisme, Donald Trump a expliqué tout le week-end avoir voulu mettre fin au narcoterrorisme. C'est d'ailleurs sous ce chef d'inculpation que Nicolas Maduro comparaîtra tout à l'heure devant un juge fédéral à New York. Et pourtant, un rapide coup d'œil dans le rétroviseur suffit à se convaincre du peu de cas que le président américain fait de la lutte contre le narcotrafic. En janvier de l'année dernière, tout d'abord, le locataire de la Maison-Blanche avait accordé sa grâce présidentielle au fondateur du plus grand site de vente de drogue dure sur le marché noir en ligne, condamné aux États-Unis à la prison à vie. Et puis en décembre 2025, le même Donald Trump avait encore choisi de gracier l'ancien président du Honduras, condamné lui aussi aux États-Unis à 45 années de prison pour trafic de drogue. Et ce faisant, chacun aura vite fait de comprendre que derrière la capture du président vénézuélien se joue en réalité une autre bataille, celle du contrôle du plus grand trésor pétrolier de la planète. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour.
Rappelons peut-être que durant des années, les États-Unis, à travers leurs multinationales, ont exploité donc avec une profitabilité inouïe la rente pétrolière du Venezuela, une espèce d'âge d'or mythifié par le mouvement MAGA et auquel le pouvoir trumpiste espère sans doute revenir, Wafia, grâce à l'expédition donc menée ce week-end.
Et la fin de ce rêve pétrolier américain, c'est la nationalisation du pétrole vénézuélien dans les années 2000 par l'ancien président Hugo Chavez. Depuis, la production de pétrole ne représente plus que 1% de la consommation mondiale. Thierry Bros, professeur d'économie à Sciences Po Paris.
Comme c'est un pétrole très compliqué à raffiner, il faut avoir les raffineries nécessaires, spécifiques pour le faire. Donc c'était essentiellement les États-Unis avant 2000 et aujourd'hui c'est plutôt la Chine qui le fait, je dirais, dans des conditions pas extraordinaires de raffinage, mais comme les Chinois se disent « je gagne beaucoup d'argent en l'achetant très peu cher », finalement ça va.
Avec le retour des États-Unis, fini les exportations vers la Chine. Ça, c'est le premier objectif de Donald Trump, mais pas le seul. Le président veut surtout que les compagnies américaines reviennent au Venezuela.
Avant Chavez, on était à 3,5 millions de barils par jour. Donc on pourrait revenir à ces 3,5 millions de barils par jour dans un laps de temps d'une dizaine d'années, mais avec plusieurs compagnies pétrolières américaines arrivant. C'est-à-dire qu'une seule ne pourra pas le faire. Donc il faut qu'elles se sentent soutenues et qu'elles aient un régime fiscal et économique qui soit acceptable. Elles ne reviennent pas comme ça immédiatement juste parce que quelqu'un à la Maison-Blanche leur a dit « il faut venir ».
Ces compagnies devront investir des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars pour y arriver. Donc, elles ne s'engageront probablement pas sans garantie de stabilité politique fiable.
Merci Wafia Kenich. Alors, vous l'avez dit, le Venezuela détient aujourd'hui les plus grandes réserves d'or noir au monde. Devant, en l'occurrence, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Canada. Le Canada pour lequel un certain Donald Trump, toujours lui, n'a jamais caché ses rêves d'annexion pour faire de son voisin du Nord le 51e État des États-Unis. Puis il existe encore une autre cible convoitée par le milliardaire républicain. C'est le Groenland qui dispose, lui, d'importantes ressources minières majoritairement non exploitées. Nous allons nous en occuper d'ici 2 mois, d'ailleurs déclaré Donald Trump hier soir devant des journalistes qui l'interrogeaient à bord d'Air Force One. Ça suffit maintenant, a aussitôt réagi le premier ministre de l'île de l'océan Arctique. La veille, la chef du gouvernement danois s'était également élevée avec fermeté contre les propos du président américain. Et ce matin encore, les marques de solidarité n'ont pas tardé. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, chacun aura pu noter, disons, une certaine frilosité de la part des Européens au lendemain de l'opération menée par les États-Unis au Venezuela. En revanche, Fabien, s'agissant des menaces de Donald Trump sur le Groenland, là, il semble que le vieux continent n'ait pas l'intention de se laisser intimider.
Non, c'est évidemment du Danemark que sont venues les premières réponses européennes au propos de Donald Trump. Depuis Copenhague, la première ministre Mette Frederiksen appelle les États-Unis à cesser leurs menaces d'annexion. La France se dit solidaire, tandis que la Commission européenne vient d'appeler au respect de l'intégrité territoriale du Groenland. Des réactions jugées encore trop timorées au goût de nombreux élus du Parlement européen, dont la française Aurore Laluc pour le groupe des sociodémocrates.
Le Groenland, ça fait un an qu'il en parle, Donald Trump. Qu'est-ce qu'on a fait depuis au niveau européen? On a pris quoi comme initiative? Sur le Venezuela, on a vu qu'il était crédible. Il fait. Il dit ce qu'il fait. Comme Poutine disait exactement ce qu'il allait faire aussi. Donc en fait, le pari de « mais non, il ne va pas faire ça », mais il est bien trop dangereux. Il est irresponsable. C'est ce pourquoi il a été élu, c'est pour être la brute épaisse dans la cour de récré, c'est sa légitimité en fait, et jamais il ne renoncera à ça en réalité. Jamais, donc ça, il faut aussi qu'à un moment, les Européens le comprennent.
Notamment en poursuivant leurs efforts en matière de défense européenne, plaident de nombreuses voix à Bruxelles pour ne plus dépendre des États-Unis et pouvoir ainsi s'engager plus librement dans des rapports de force avec l'administration américaine.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Alors on évoquait tout à l'heure la frilosité de la part des Européens après l'opération américaine au Venezuela. On sent bien une certaine gêne aujourd'hui dans les chancelleries à prendre position. Et c'était encore le cas d'ailleurs ce matin en France à la sortie du Conseil des ministres. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour.
Dans une forme de déclaration, disons énigmatique, la porte-parole du gouvernement a expliqué que la méthode utilisée par les États-Unis n'était, je cite, ni soutenue ni approuvée.
Voilà, il n'est pas certain que le président éteigne la polémique née de son tweet
ce week-end dans lequel il disait simplement « prendre acte de la fin de la dictature Maduro » sans un mot sur l'opération américaine et le non-respect du droit international. Complaisance et trahison de la position française selon une partie de la classe politique qui avait critiqué cette déclaration, notamment la gauche. Ce matin, les mots du chef de l'État ont finalement évoqué l'intervention américaine sans aller jusqu'à une condamnation franche. Écoutez leur retranscription par Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement.
Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode utilisée n'est ni soutenue ni approuvée. Deuxièmement, président Maduro est un dictateur et son départ est une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens. Il a confisqué la liberté de son peuple et volé les élections de 2024. Ce sont ses mots.
Voilà, ni soutenu ni approuvé. Difficile de faire moins quand on se pose depuis des années en défenseur du multilatéralisme ou du droit international et aveu d'impuissance démocratique, ce choix de ménager Donald Trump. Si transition il y a au Venezuela, selon Emmanuel Macron, il devait y avoir, alors le vainqueur de 2024 devrait jouer un rôle central, relate Maud Brejon, et ceci, ce vainqueur de l'élection 2024 de l'opposant Edmundo González Urrutia.
Merci Nicolas Balu.
Midi passé de 40 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après avoir assuré hier dans une lettre ouverte comprendre leur sentiment d'injustice, Sébastien Lecornu devra cette fois-ci les convaincre droit dans les yeux de sa bonne foi. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, le Premier ministre a prévu en effet de recevoir à Matignon les syndicats d'un monde agricole en colère et de fait qu'il s'agisse de l'épizootie, de dermatose nodulaire ou des risques de concurrence accrue venue des pays latino-américains du Mercosur. Inutile de creuser très profondément pour trouver les sujets de discorde encore fumants susceptibles de nourrir le lisier d'un troisième hiver de grogne dans les campagnes.
Et décidément, l'ambiance ne semble guère à la fête en ce début d'année.
Depuis ce matin, durant les 10 prochains jours, les médecins de ville sont, eux, appelés à faire grève contre diverses mesures du projet de budget de la sécurité sociale et au regard du front commun affiché par toutes les organisations professionnelles représentatives, eh bien, la mobilisation promet d'être massive, au risque d'ailleurs de mettre davantage encore en difficulté l'hôpital public. Tarache Légal, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Je le disais, c'est donc le budget de la Sécu qui se retrouve aujourd'hui dans le viseur des médecins libéraux. Pour quelle raison, Tara ?
Pour les cliniques privées, notamment, alors que la moitié d'entre elles environ sont en déficit, l'ONDAM, la hausse des tarifs, est jugée bien trop modeste. Par ailleurs, l'article 24 met les praticiens hors d'eux. En cas de désaccord sur la valeur d'un acte réalisé par un médecin, l'assurance maladie qui le rémunère pourra saisir le ministère de la Santé, lequel fixera arbitrairement un nouveau tarif. Docteur Franck de Vulder préside la CSMF, l'un des syndicats les plus puissants. Il rappelle que 13 000 actes qui détaillent le travail médical sont en pleine réévaluation. Ce travail aboutira mi-2027, mais tout est bouleversé.
Ça contourne le rôle des syndicats médicaux et de l'assurance maladie, donc complètement contourné sur ce plan. Et quand j'entends, elle me l'a dit de vive voix dans son bureau le 18 décembre dernier, notre ministre Stéphanie Ries nous dire « Moi, ministre, je n'appliquerai jamais cette mesure de baisse autoritaire de tarifs », je lui réponds d'un petit clin d'œil avec un sourire aux lèvres. Je vous entends, je ne remets pas en cause la sincérité de votre propos. Simplement, Madame la Ministre, vous êtes la 10e ministre de la Santé sous l'ère du président Emmanuel Macron.
Et puis, concernant les arrêts de travail, les médecins sont ulcérés de voir les sanctions inscrites dans une loi sur la fraude, docteur de Vulder.
Trouver dans ce projet de loi, entre la fraude fiscale, la fraude liée au trafic de stupéfiants, nos médecins, sous prétexte qu'ils prescrivent des arrêts de travail, c'est juste pas tolérable.
Et de renvoyer aussi vers la sécurité sociale qui devrait mieux contrôler a posteriori les arrêts longs, dit docteur de Vulder. Bref, le mouvement va se durcir dans les prochains jours.
Merci Tarache Légal.
L'État parviendra-t-il à reprendre la main dans la lutte contre la criminalité organisée ?
Dans la guerre au narcotrafic, déclarée par les autorités, une nouvelle entité juridique entre en fonction à partir d'aujourd'hui au tribunal de Paris, le PNACO, pour Parquet national anticriminalité organisée. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Diane Vigas, maîtresse de conférence à l'Université Paris de Panthéon, à Assas. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg, spécialiste justice à la rédaction. Bonjour Anne.
Bonjour Thomas, bonjour Diane Vigas. Alors on parle de ce parquet national anticriminalité organisée depuis 2024, autant dire qu'il était très attendu. Parquet qui a été conçu sur le modèle du PNF ou du PNAT, des parquets nationaux spécialisés sur les infractions infractions financières et terroristes. Mais dans cette matière de la criminalité organisée, il y avait déjà un maillage composé par les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées qui œuvrent depuis 20 ans contre les trafics en bande organisée. Il y avait aussi la Junalco à Paris en charge de la criminalité de très grande complexité. Comment le PNACO va trouver sa place dans ce paysage judiciaire?
On voit bien qu'il existe déjà des juridictions et des institutions qui prennent en charge la criminalité organisée du haut du spectre. Et c'est notamment les JIRS au niveau interrégional et la Junalco au niveau national. Donc aujourd'hui, le PNACO vient récupérer 170 dossiers qui appartenaient à la Junalco. Et il va s'imposer comme l'institution qui va coordonner la lutte contre la criminalité organisée des grandes complexités et du haut des spectres.
Alors on parle de 16 magistrats hein, pour démarrer, c'est décevant, faudra que le garde des Sceaux tienne très vite sa promesse de monter à 30 magistrats.
Effectivement, la commission des préfigurations de l'EBNACO avait conseillé 30 magistrats dès le départ afin de pouvoir et travailler en bonnes conditions sur les stocks qu'ils prévoyaient de travailler. Mais initialement, 16 magistrats ont été nommés le 31 décembre dernier. Et on prévoit une nouvelle vague des magistrats qui arrivera au mois de septembre à une dizaine environ.
Et 30 magistrats, ça sera suffisant pour tous ces dossiers?
Vu la quantité des stocks, des 170 dès le départ, et en plus, il y aura des dossiers nouveaux qui viendront compléter cet stock, on voit difficilement comment ce travail va s'articuler avec un travail des diplomaties judiciaires, parce qu'on doit savoir que l'EBNACO aussi va être un peu les représentants au niveau international de cette lutte contre la criminalité organisée auprès d'autres juridictions internationales de d'autres pays. Également, l'EBNACO a un rôle de coordination avec d'autres services qui viennent d'autres institutions et un rôle de coordination avec d'autres institutions judiciaires, notamment la JIRS et d'autres institutions.
Alors, il va y avoir aussi de nouveaux fonctionnements des magistrats spécialisés sur le crime organisé qui vont travailler avec des procureurs au profil plus financier. L'enjeu pour cette juridiction, ça va être aussi de montrer que l'État est capable de lutter contre l'argent sale.
Effectivement, on voit qu'une des grandes problématiques de la lutte contre la criminalité organisée, sur laquelle la juridictionnalisation penche un peu, c'est les volets financiers, les volets patrimonialisation. On les voit très très peu dans les dossiers où ils se reflètent de façon très faible. Donc ces renforcements, je pense que c'est une sage décision. Et on pense que peut-être l'expérience de la nouvelle procureure qui vient de la Grasse va nourrir cette double regard qui est nécessaire pour bien combattre, avoir une lutte efficace contre la criminalité organisée.
Alors vous vous intéressez aussi à la façon dont les mafias parviennent à instaurer leurs propres normes concurrentielles à l'ordre juridique de l'État. Ça va être également l'un des objectifs du PNACO, renforcer, voire restaurer la culture de la légalité, c'est une expression italienne.
Oui, c'est vrai que l'EBNACO peut être aussi s'instituer comme une figure symbolique de la lutte contre la criminalité organisée, faire émerger cette lutte contre de la culture de la légalité. Mais il faut savoir aussi que dans la société civile, il y a des manifestations des cultures de la légalité qui se battent tous les jours et sur les terrains contre ces organisations de type mafieux. Alors, on voit bien que la réponse étatique parfois face à ces organisations, notamment lorsqu'il y a des manifestations de violence, elle est toujours répressive et sécuritaire. Et je pense que lorsqu'on répond de cette façon de façon systématique, on affaiblit les instruments juridiques qu'on a déjà en possession et voire certaines institutions. Donc il faut prendre garde à ces genres de manifestations parce que les organisations de type mafieux, parfois, en faisant ça, affaiblissent l'état des droits et la démocratie, et c'est ce qu'ils cherchent. Donc il faut vraiment faire attention à ces genres de manifestations, des impulses, des réponses étatiques.
Alors, dernière question. Avec la loi narcotrafic, les enquêteurs vont avoir de nouveaux moyens, notamment le procès verbal distinct pour pas divulguer certaines techniques d'enquête aux mises en cause. Gérald Darmanin a dit aussi qu'il voulait développer le renseignement, comme dans le terrorisme, où 90% des affaires proviennent du renseignement avant d'être judiciarisées. Il y a des risques pour les droits de la défense et même pour nos libertés fondamentales?
Je pense qu'il faut toujours rester vigilant et c'est important de savoir que dans cette lutte contre la criminalité organisée, il faut toujours garder un équilibre qui n'est pas toujours facile, de respecter les libertés individuelles et en même temps garantir une lutte efficace contre des organisations qui affaiblissent l'État et qui posent un grave problème d'intégrité physique pour les citoyens.
C'est bien noté. Merci Diane Villegas, maîtresse donc de conférences à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Anne Fauquemberg, ainsi qu'à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec la neige qui continuera donc de progresser sous forme de faibles averses. 23 départements ont été placés en vigilance orange, de quoi renforcer aussi la sensation de froid. Les températures, elles seront comprises entre 0 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.